Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon mardi PM. J'espère qu'il se déroule bien, tout en douceur et avec beaucoup de joie. J'espère pour vous, c'est Marianne Paquette au micro pour cette émission. C'est bon pour la santé, vous êtes sur Canal M. Bien, peut-être que pour l'année 2016, vous avez pris cette résolution de mieux vous alimenter, de manger peut-être moins de viande, d'inclure les légumineuses. Si c'est le cas, vous êtes tout à fait dans l'air du temps parce que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a décrété que l'année 2016 serait celle des légumineuses. Et il y a plusieurs bonnes raisons à ça. Les légumineuses, ce sont des plantes qui sont très nutritives, ça, on s'en doutait, mais également écologiques. Elles ont un impact majeur sur la santé humaine, la survie de nombreuses personnes et auraient même un impact sur les changements climatiques. Et en plus, le Canada, parce qu'il y a un point de vue économique à tout ça, le Canada est le leader mondial de la production de lentilles et de pois secs. C'est ce que l'on apprend aussi là, en décrétant en 2016 cette année des légumineuses. Tout à l'heure, on en saura davantage avec Bernard Lavallée, lui qui est nutritionniste. Également, vous dire que le Québec accueille chaque année à peu près 50 000 immigrants qui proviennent principalement d'Europe, d'Afrique du Nord ou d'Amérique latine. On le sait, on en entend beaucoup parler depuis le mois de décembre. Le Canada a accueilli aussi des milliers de Syriens. Évidemment, l'immigration, ça ne se fait pas sans choc. C'est une énorme transition et ce, sur plusieurs plans. D'entrée de jeu, on pourrait penser au climat, hein, surtout avec celui que l'on a depuis quelques jours ici au Québec, mais également, les règles de société sont différentes, la culture également, pour le travail, il y a des enjeux différents, le contact, hein, se former un autre réseau, ça peut être un défi assez important. Et tous ces éléments-là peuvent avoir un impact sur la santé physique des nouveaux arrivants, mais également sur leur santé mentale. Comment on peut mieux soutenir ces familles-là? J'en parle à l'instant avec Deogracias Bagilicia, lui, psychologue clinicien en pratique privée. Deogracias, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Bon, l'immigration, bien sûr, je parlais des différents aspects qui peuvent créer des difficultés pour les familles, les nouveaux arrivants. Évidemment, moi, j'en parle sans connaissance de cause. Vous, vous êtes d'origine canadienne, mais également rwandaise. Donc, vous avez connu l'immigration. Vous pouvez, en plus de votre parcours de psychologue, vous pouvez en parler de cette expérience-là.
Oui, avec plaisir. Ça fait 24 hivers que je suis ici.
Deogracias, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je parlais de différents aspects. Il y a le climat, il y a le travail, il y a, bien sûr, on est isolé, notre famille est à l'extérieur, est ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus difficile où tout ça prend une part assez importante dans l'adaptation des nouveaux arrivants?
Je crois que tout ça est mêlé, mais ce qui est important quand même à souligner, c'est que tout ce qui concerne le processus d'adaptation, c'est quelque chose qui est parfois difficile à gérer. Mm-hmm. C'est clair que les gens, avant de venir, ils sont déjà sensibilisés qu'ils vont vivre des réalités différentes. Mm-hmm. Mais quand ils arrivent, ils sont loin de se douter à quel point ces réalités sont totalement différentes à celles auxquelles ils étaient habitués.
Oui, parce qu'on a beau leur en parler, les préparer verbalement, il n'y a rien comme être dans l'action et le vivre.
Exactement.
Est-ce que on prépare suffisamment les nouveaux arrivants à leur arrivée ici au Canada?
Mais je crois que les choses qui sont faites sur le terrain, c'est très important. Mais quand ils envisagent d'immigrer, il y a des messages pratiquement inaudibles. Tout ce qu'ils veulent, c'est venir. Hein? Et puis même ce qu'on leur dit comme information, on dirait que ce n'est pas immédiat, ce n'est pas tout à fait enregistré. C'est quand ils arrivent, ouais, qu'ils réalisent réellement que les informations qu'ils avaient reçues, c'est quelque chose qui est collé à une certaine réalité, mais à laquelle nous attendions pas du tout.
Mm-hmm. Évidemment, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est tout l'aspect santé de ces familles-là, de ces gens-là qui arrivent chez nous. Est-ce que cet aspect-là est suffisamment pris en charge? Est-ce que les personnes qui s'occupent de l'immigration aussi au Canada sont suffisamment sensibilisées à la santé, notamment la santé mentale de ces gens-là?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites pour les nouveaux arrivants et les immigrants. Notamment, il y a des cliniques quand même de psychiatrie transculturelle ou bien des cliniques d'ethnopsychiatrie. Mais ce qui est important quand même à souligner, c'est qu'il y a des formations et des sensibilisations qui sont données, mais on dirait qu'il n'y a pas de suivi. Parce qu'une fois arrivés sur le terrain, oui, on les sensibilise à ne pas connaître les particuliers du système en place pour accéder aux soins de santé. Mais on dirait qu'ils ne sont pas suffisamment outillés pour composer adéquatement avec les méthodes des intervenants.
Oui, des méthodes qui sont différentes que le pays d'origine.
Qui sont totalement différentes que le pays d'origine.
Oui.
Donc, ce qui fait qu'ils ont peut-être une connaissance des ressources qui sont disponibles, mais aller les chercher, les outiller pour comment interagir avec les méthodes totalement différentes, c'est ça qui n'est pas suffisamment mise en avant.
Oui, Deo Gracias, en même temps, il ne faut pas se leurrer. Le système québécois de la santé peut être assez lourd, c'est-à-dire qu'on réfère à un autre spécialiste, on nous envoie dans un autre lieu. On peut facilement s'y perdre avec parfois plusieurs prescriptions. Comment s'y démêler? Les nouveaux arrivants n'ont peut-être pas toujours les outils en main pour le faire.
Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut vraiment trouver les moyens de les outiller. Pas nécessairement directement à l'arrivée, mais faire le suivi. L'idéal pour moi, par exemple, moi, si je m'écoutais, si on avait des moyens, c'est qu'il y aurait une orientation à l'arrivée où on pourrait parler de plusieurs choses, y compris l'accès aux soins de santé, mais au bout de 2 ou 3 mois, rencontrer collectivement les gens qu'on avait déjà rencontrés pour voir c'est quoi les problèmes qu'ils ont rencontrés, des choses de ce genre, et puis essayer de faire le point pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour leur donner encore un coup de main?
Oui. Justement, à quel type de problème ils sont confrontés, les familles qui viennent d'ailleurs, Deo Gracias, à quel genre de réalité ou de défi là, on doit s'attaquer?
Je crois qu'il faudrait... Ouais, avant de répondre à votre question, je vous dirais deux proverbes africains.
Oui.
Il y a un proverbe africain qui dit... Quand on va dans un village, il faut apprendre à danser au rythme de ce village.
Oui.
Si les gens du village dansent sur un pied, que toi, tu es habitué à danser sur 2 pieds, plus en un saute sur l'autre. Mais il y a un deuxième qui dit, quel que soit le nombre d'années qu'un morceau de bois passe dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman, il ne deviendra jamais un crocodile, il ne deviendra jamais un poisson.
Il reste
La
un
grande
bout de bois.
La difficulté que les gens vont rencontrer, effectivement, c'est vraiment au niveau de concilier leur le ce qu'ils croyaient être les méthodes les plus adéquates pour se faire soigner et les méthodes qui sont proposées ici.
Mm-hmm.
Donc, ce qui fait que dans le processus d'adaptation, c'est sûr et certain qu'il y a pour certaines cultures, c'est difficile de se retrouver avec les méthodes qui sont utilisées. Le fait que, par exemple, dire, écoutez, si vous avez un problème, il faut le verbaliser, il faut en parler, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que dans leur culture, par exemple, on disait, écoute, on ne parle pas de ces affaires, on ne parle pas de ces enjeux ou des choses de ce genre. Et quand on parle de défis, à mon avis, vraiment, c'est à deux niveaux. Comment maintenant transformer sa première conception de la prise en charge en santé qui tient compte de ce qu'on peut appeler vraiment les repères fondamentaux du Canada, du Québec.
Oui, mais il faut, j'imagine, également tenir compte de ce que ce soit le parent, que ce soit l'enfant, qu'est-ce que cet individu-là a vécu dans son pays d'origine? Est-ce qu'il est exilé parce qu'il y avait de la guerre? Est-ce qu'il y a eu différents abus, de la violence? Est-ce que ces questions-là sont posées?
Quand on va dans des cliniques de psychiatrie transculturelle, ces questions sont posées effectivement. Parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité. Il y a ce qu'on peut appeler les éléments culturels en tant que tels, mais aussi il y a ce qu'on peut appeler les facteurs psychologiques qui sont associés aux expériences traumatisantes que les gens ont vécues.
Mm-hmm.
Et puis dans les cliniques de psychiatrie transculturelle, parce que j'ai travaillé là-dedans avec le docteur Cécile Rousseau, dans les évaluations qu'on fait, on fait intervenir également l'élément culturel. Donc, les éléments culturels, comment dans leur pays d'origine, les symptômes, comment ils sont perçus. Et souvent aussi, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle un interprète culturel qui va nous donner un autre regard sur les symptômes en tant que tels, plutôt que de privilégier ce qu'on peut considérer comme les symptômes classiques du DSM, du manuel diagnostique de maladies mentales.
Oui. Il y a aussi, j'imagine, beaucoup de stress, stress qui vient de plusieurs sources, entre autres l'isolement qui est extrêmement présent auprès de ces familles.
L'isolement est souvent associé vraiment au processus ça peut être aussi un symptôme des difficultés d'adaptation. Parce que je crois que tout le monde est au courant, quand on arrive dans un environnement tout à fait nouveau, après une période d'enchantement, il arrive également des périodes de frustration, des choses de ce genre. On n'est pas capable de se réaliser, on veut faire si on n'y arrive pas. Parfois aussi, les repères sont tellement différents qu'on est vraiment en crise d'identité. Quand on est en crise d'identité, ça peut provoquer quand même un isolement parce que, à la limite, on peut se dire, si je suis mal comme ça, à la limite, c'est à cause de la société d'accueil. La société, donc, on a tendance à blâmer la société d'accueil. Et quand on a tendance à blâmer la société d'accueil, on a tendance à se replier sur soi ou à se replier dans le ghetto des membres qui nous ressemblent. Donc, quand on parle d'isolement, il faudra voir, n'y a-t-il pas réellement des éléments qui sont associés aux frustrations, aux déceptions, aux deuils qui sont associés, par exemple, aux rêves non réalisés ou des choses de ce genre.
C'est quoi les symptômes des urations, de la difficulté d'adaptation?
Ben, la plupart du temps, ça peut être une grande tristesse, comme ça peut être la colère également. Disons par exemple, si je prends l'exemple de certains parents, ils arrivent en disant, écoute, quand je vais arriver, il s'est déjà fait un plan en tête, je vais trouver du travail, je vais me construire une maison, je vais envoyer de l'argent aux gens qui sont restés. Et puis arrivé ici, il n'arrive pas à réaliser ce rêve. Et lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un stress énorme qui monte. Et quand le stress monte, il commence à envisager le pire. Et quand il commence à envisager le pire, c'est comme si son stress, qui était normalement un signal qui lui permettait d'aller en avant, devenait un ennemi pour lui parce qu'il continue à fonctionner tout le temps, comme si c'était un système d'alarme qui ne s'arrêtait jamais. Alors il tombe dans ce qu'on peut appeler une sorte de démoralisation et d'épuisement, hein, mais qui est associé vraiment à ce stress permanent qui n'arrête pas. Et puis quand ça arrive, la plupart du temps aussi, s'ils sont en famille, par exemple, si c'est un homme, son conjoint, sa conjointe trouve qu'il a complètement changé. Ce n'est plus le même homme, ce n'est plus la même femme, à la limite, ce n'est plus le même enfant. Donc tout ça aussi, ça vient encore augmenter le stress que les gens sont tentés de vivre. Et puis ils vont se manifester de plusieurs façons. Ça peut être sur le plan physique, il va éprouver des maux de tête incroyables, il va éprouver des maux d'estomac ou des choses de ce genre. Tout comme maintenant, ça peut se manifester également à travers une grande colère et puis parfois ça peut aboutir à la violence domestique.
Oui. Je veux revenir sur ce mot que vous avez utilisé, déogratias, c'est-à-dire la résistance. Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, ben oui, la culture est différente, la façon de faire également, et on est amené à peut-être se faire poser des questions ou à parler de choses dont on ne parle pas dans notre pays d'origine, dont la santé mentale, hein, qui est encore tabou dans certains endroits du monde. Comment on peut défaire ces résistances-là auprès des nouveaux arrivants?
L'essentiel est vraiment d'abord d'être à l'aise pour être capable d'accepter que l'autre peut avoir une autre, de donner un autre sens aux symptômes qu'il éprouve. Et une fois qu'on a accepté ça, on va trouver maintenant, je vais vous donner un exemple. À un certain moment, j'avais un enfant dans la clinique et puis l'enfant, il me disait, écoutez, je suis maudit ou des choses de ce genre parce qu'on m'a jeté un mauvais sort. Ben, la question spontanée qui m'est venue, là d'où tu viens, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter le mauvais sort? En ce moment-là, on va rechercher dans ce cadre, et puis dans ce cadre culturel, et puis lui, il nous donne des moyens qui vont lui permettre maintenant de nous dire c'est quoi le sens qu'il attribue à la souffrance, à la détresse qu'il éprouve. Et quand tu vois qu'il est compris dans ses repères, là, en ce moment-là, on peut lui dire, est-ce qu'il y a d'autres hypothèses possibles? Y a-t-il d'autres explications possibles? Est-ce que tout le monde fait ça de la même façon? Donc, l'encadrer dans ce sens, mais pas seulement, pas essayer, éviter de faire le plus de mal possible, en essayant de lui donner une explication qui ne correspond pas du tout au sens qu'il donne à la, à la souffrance qu'il éprouve.
Donc, d'aller saisir dans la culture d'origine des sens, à la souffrance, aux mots, est-ce que c'est une façon, un facteur qui aide à l'adaptation des familles?
Ah, tout à fait, tout à fait. Parce qu'une fois qu'ils se sentent compris, parce que quand ils se sentent compris, c'est qu'ils ne se sentent pas disqualifiés dans ce qu'ils sont. Mm-hmm. Parce que c'est quelqu'un qui est en crise d'identité. S'il est en crise d'identité, la pire des choses que tu peux faire, c'est le disqualifier dans ce qu'il reste de fondamental. Oui. Donc, quand tu te sens compris et non disqualifié, en ce moment-là, il développe une confiance en vous. Et quand cette confiance est développée, en ce moment-là, on peut l'encadrer, on peut travailler avec lui.
Oui.
Mais avant d'avoir essayé de développer cette confiance, ça serait très, très difficile.
Théo Gracias, vous travaillez beaucoup auprès des enfants. J'imagine que de voir le fonctionnement d'un enfant qui pourrait être dysfonctionnel nous en révèle beaucoup sur la famille et qu'il faut intervenir là également. Si on intervient que sur l'enfant, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau et il faut avoir cette vision-là d'ensemble.
Oui, tout à fait, parce que souvent l'enfant peut être le thermomètre de la souffrance qui envahit toute la famille.
Ah, oui.
Dans ce qui fait qu'avant de traiter l'enfant, il faut voir s'il n'y a pas des facteurs externes qui peuvent expliquer son comportement. Disons par exemple, la plupart du temps, ce sont des enfants qui sont considérés comme des enfants agités, des enfants inattentifs ou bien des enfants qui sont violents ou des choses de ce genre. Il faut vraiment essayer de voir dans sa trajectoire, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer le message qu'il est en train de nous envoyer.
Mm-hmm.
Parce que c'est un message du malaise, de la souffrance qu'il est en train d'éprouver, qu'il est en train de nous envoyer.
Ouais.
En ce moment-là, c'est sûr et certain qu'aller chercher du côté de la famille ce qui se passe, évidemment, ça en tomber dans le voyeurisme pour collaborer avec eux, les encadrer également pour essayer de voir c'est quoi le moyen qui va soulager le plus cet enfant. Parce que si les parents ne sont pas bien, c'est sûr et certain que les enfants ne peuvent pas se sentir bien.
Et voilà.
Si un enfant a un parent qui est déprimé, un enfant qui est très en colère, un parent qui est très souffrant, c'est très difficile qu'il soit capable vraiment de se sentir bien également.
Mm-hmm.
Et puis souvent, il va le manifester à l'école.
Oui, c'est ça, ce que vous nommez, être agité, avoir des problèmes de concentration. Souvent, ça entre dans troubles du comportement. On nomme ça comme ça à l'école. Mm-hmm. Ces enfants-là, assez rapidement, ils ont cette étiquette-là. On peut les accompagner, j'imagine, dans leur cheminement.
Justement, il faut vraiment éviter de tomber dans l'étiquette, que ce soit même pour les enfants immigrants ou les autres, avant de voir s'il n'y a pas d'autres facteurs externes qui peuvent vraiment expliquer son comportement.
Mm-hmm.
Sinon, on va médicaliser un problème qui n'est pas médical.
Voilà. Est-ce que les écoles sont suffisamment outillées pour recevoir ces enfants, d'ailleurs?
Je crois que la plupart des écoles, quand même, sont bien équipées, mais notamment au Québec, avec les classes d'accueil.
Ouais.
Mais ce qui est certain, c'est que la connaissance des dimensions culturelles pouvant être à la base des incompréhensions entre personnes de cultures différentes, c'est un élément fondamental pour pouvoir accompagner ces enfants.
Ouais.
Parce que tant qu'on n'a pas encore cette connaissance des dimensions culturelles pouvant être en conflit avec des gens issus de cultures différentes, ça va être très difficile de juger l'autre à travers ses propres repères. Tu vas le juger à travers tes repères à toi et non pas en fonction des repères, par exemple, de ses repères culturels.
Oui.
Parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va y avoir de plus en plus un mur entre la famille et l'école. Parce que, n'oubliez-le, dans le proverbe que je vous ai dit, il faut apprendre à danser au rythme du tam-tam du village. Parce que les enfants qui sont à l'école, il y a deux orchestres qui jouent en même temps.
Mm-hmm.
L'orchestre du Québec et l'orchestre de la famille.
Mais voilà.
L'orchestre du Québec, il dit d'aller à droite, tandis que l'orchestre de la famille, il lui dit d'aller à gauche. Maintenant, comment faire en sorte que l'enfant se sente bien dans les deux orchestres? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Certainement, de trouver son rythme à lui dans tout ça, en
Exactement.
Plus, là, parce qu'il a son propre rythme, cet enfant-là. Hein.
Et puis, quand il est confronté à cette deux logiques, à la limite, qui sont tout à fait inconciliables, il peut être confus, il est complètement perdu. Même nous autres adultes, ça serait pareil.
En terminant, Théo Gracias, j'aimerais vous demander un conseil, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, le Québec et le Canada reçoivent chaque année beaucoup d'immigrants, des réfugiés aussi. Quels sont les meilleurs conseils quand on les croise dans la rue, dans le métro, à l'épicerie? Comment accueillir ces gens-là le mieux possible?
Je crois que moi, je vous dirais peut-être un autre proverbe. Hein? Il y a un proverbe africain qui dit « Un oiseau qui n'a jamais pris son envol, il ne peut pas savoir où les richesses sont abondantes. Mm-hmm. » Ces gens qui arrivent, ils arrivent ici, et puis ici, il y a beaucoup de richesses humaines qui peuvent leur permettre de s'épanouir. Mais eux aussi, ils portent des richesses. Donc, il y a un envol, ils ont pris leur envol. En même temps, ils nous permettent également de prendre notre envol pour voir autre chose.
Ouais.
Donc, moi, le conseil que je donnerais, quand vous voyez quelqu'un, essayez de voir c'est quoi la richesse qui est derrière. Et puis surtout, quand ça ne va pas, essayez de comprendre qu'il y a quand même, il faut reconnaître également parfois notre impuissance à savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans cette personne parce qu'on ne le connaît pas.
Oui.
Mais surtout, ne pas se laisser envahir par le comportement peut-être que je considère inapproprié de la part de la personne que je rencontre.
Oui, et par les préjugés et le jugement.
Ça, exactement. Parce que ce qui est difficile vraiment, c'est l'ignorance et les préjugés. Dans les relations comme ça, ça devient un cocktail explosif.
Oui. Vous serez en conférence Deo Gratias ce 24 février 2016 du côté du Centre Saint-Pierre pour offrir une conférence. On glissera les informations sur notre site. Je rappelle, vous êtes psychologue, Deo Gratias Baguilichian. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant et très inspirant.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bernard Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et là pour nous parler de 2016, cette année des légumineuses. Donc, on se met à manger des petits pois, de l'humus, des fèves au lard. Si on aime ça, tant mieux. Si on aime moins, peut-être que tout à l'heure, on aura le temps pour que vous nous aidiez à les apprivoiser. Mais d'abord, il y a quand même de bonnes raisons à ce décret-là, à savoir 2016, année des légumineuses. Et notamment, c'est qu'il y a plusieurs avantages nutritionnels.
Absolument, absolument. Les légumineuses, en fait, sont super intéressantes. Donc, quand on les remplace, quand on remplace la viande, par exemple, par des légumineuses, ben c'est intéressant parce que ce sont des sources de protéines, donc qui sont très intéressantes, qui contiennent très peu de gras, par exemple, surtout des gras saturés comparativement à la viande, qui on sait qu'il peut avoir des impacts nocifs sur la santé cardiovasculaire, mais les légumineuses contiennent aussi plein d'autres nutriments. Elles contiennent des fibres, notamment, qui est un nutriment qui est très, très peu consommé par les Québécois, généralement. Donc, plein de bénéfices. En plus, comme il y a différents types de fibres à l'intérieur des légumineuses et qu'on a de la difficulté parfois à la digérer, ben ça nourrit les bactéries dans notre tube digestif aussi. On sait que ça peut être associé à la santé. Donc, bref, plein de très, très bonnes raisons de les apprivoiser.
Oui. Des avantages également, et ça, j'en étais un peu étonnée, ça pourrait avoir des impacts sur les changements climatiques, des avantages du point de vue écologique, environnemental. Est-ce que c'est en trait avec l'agriculture même des légumineuses?
Absolument, en fait. La production de viande en tant que telle est une industrie qui est super polluante.
Ouais.
On sait que pour être capable de produire des sources de protéines animales, on va devoir utiliser beaucoup d'eau, on va devoir utiliser beaucoup de nourriture, beaucoup de sol. Il va y avoir de la pollution donc de l'eau, des sols, de l'air qui va être associé à ça. Et c'est aussi une grande source d'émissions de gaz à effet de serre.
Mm-hmm.
Et donc, chaque fois qu'on remplace notre consommation de viande par une consommation de légumineuses, ben ça peut avoir un impact positif sur l'environnement. Pour vous donner une idée, pour produire un kilo de légumineuses, par exemple, on va produire presque 15 fois moins de gaz à effet de serre que pour produire un kilo de bœuf.
Oh.
Donc, d'un point de vue environnemental, il y a de très bonnes raisons de se tourner vers ces sources de protéines végétales comparativement à la viande, par exemple.
Vous avez toujours des chiffres chocs, vous, Bernard Lavallée.
C'est ma job de trouver des chiffres chocs pour vous convaincre.
En même temps, des impacts économiques, à quelque part, parce que j'apprenais que le Canada est quand même un leader mondial en ce qui a trait à la production de légumineuses.
C'est assez rare que les gens le savent. Mais même moi, avant de travailler sur mon livre, « Sauver la planète une bouchée à la fois », je ne savais pas que le Canada est un des plus gros producteurs de légumineuses dans le monde. La production a quadruplé dans les 20-30 dernières années. Donc, on a vraiment énormément augmenté donc, cette industrie. Et on est donc un très grand producteur. Donc, c'est certain que d'un point de vue économique, les légumineuses peuvent avoir un impact. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les légumineuses qui sont produites au Canada servent généralement à nourrir des animaux, pas à nourrir les êtres humains. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on est peut-être moins au courant de cette industrie canadienne.
On parle aussi de santé des humains, mais aussi de sauver des vies parce que c'est une façon de nourrir beaucoup de monde, la consommation, la production de légumineuses.
Oui, en ce moment, les trois quarts de la surface terrestre donc qui est associé à l'agriculture, sont utilisés pour l'élevage des animaux. Mm-hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on cultive beaucoup de plantes, dont des légumineuses, pour après simplement nourrir des animaux, alors qu'on pourrait nourrir des êtres humains avec ça. Et donc, si on utilisait cet espace-là, c'est cette surface terrestre pour cultiver des légumineuses qui seraient ensuite données à manger à la population et non à des animaux, bien, c'est sûr qu'on serait capable de régler beaucoup de problèmes de malnutrition et de sécurité alimentaire. Là. C'est une très, très, très bonne source alimentaire. Il y a beaucoup de peuples qui utilisent les légumineuses comme base de leur alimentation, du moins ça fait partie de leur culture alimentaire. Et donc, oui, si on utilisait ces ressources-là et qu'on les donnait à manger à des êtres humains au lieu de les donner à manger à des animaux, ça pourrait certainement avoir un impact sur la sécurité alimentaire.
Oui. Maintenant, bon, vous le disiez peut-être qu'ici au Québec, on boude encore notre plaisir. Quoique de moins en moins, là, comment on peut outiller ou inspirer les familles québécoises à manger un petit peu plus de légumineuses?
Bon, c'est certain qu'il faut trouver des recettes. Ça passe toujours par là, même si je vous dis essayez les haricots rouges ou essayez les haricots noirs. Si vous n'avez pas de recette, vous ne serez pas capable de les intégrer à votre alimentation. Honnêtement, manger des légumineuses maintenant, c'est facile. C'est très facile de trouver des recettes. Donc, allez sur n'importe quel site de n'importe quel chef que vous voulez, vous allez trouver des sections de recettes végétariennes. C'est très facile à trouver. On s'inspire beaucoup des cultures un peu partout dans le monde qui, justement, mettent à l'honneur ces légumineuses-là. Donc, pas nécessairement besoin de modifier nos propres recettes, mais au contraire, d'aller chercher des recettes, donc de cultures qui, elles, ont mis à l'honneur les légumineuses. Voilà. Donc, c'est vraiment des plats qui, généralement, sont très savoureux, très intéressants. Donc,
une façon...
honnêtement, c'est facile.
Voilà, une façon d'être soit un petit peu plus exotique, là, en s'inspirant de l'Inde, notamment, ou encore de revisiter nos classiques, donc soupe au pois, fèves au lard. Bernard Lavallée, nutritionniste urbain, on peut aller visiter .ca, votre site, ou encore FAO, là, le site de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est très bien fait. Bernard Lavallée, toujours un plaisir de vous parler.
Merci beaucoup.
Bye bye.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde qui mange des légumineuses. Marianne Paquette au micro qui en mange également. Ben, on vous en souhaite aussi de découvrir. Et puis, ben, nous, on se retrouve demain.